On jase vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
Vendredi, le 12 novembre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent au lendemain d'une belle victoire du Canadien face aux Flames de Calgary. Et que ça fait du bien. Salut, Martin.
Oui, non seulement ça fait du bien la victoire, Yann, mais c'était un super match. J'ai vraiment aimé le match. Les Flames, au début, c'était très difficile de pénétrer dans leur territoire. Puis le Canadien a fait des ajustements. Puis après ça, le Canadien s'est fait marquer le premier but, a pas donné, créer l'égalité. Honnêtement, je trouvais que le Canadien jouait de mieux en mieux. Mais hier, ils ont été récompensés avec leurs efforts. Puis on va en parler dans quelques minutes avec Guy Boucher. Moi, je veux juste parler de deux petites choses avant qu'on commence puis qu'on y aille avec le joueur électrisant. Premièrement, hier, c'était le jour du souvenir. Okay? On avait notre coquelicot. Oui. La présentation des vétérans, ce monsieur de 97 ans qui était droit comme un chêne, qui venait de la Gaspésie, puis que pendant l'hymne national, s'est tenu droit comme pas un. Vraiment, là, ça donnait le ton. Puis sais-tu quoi? Moi, j'étais un fan de l'hymne national. Je pense à sa place dans le sport, puis je pense que ça devrait être là. Mais l'interprétation était excellente par quelqu'un pour qui ça voulait dire quelque chose. Là, je veux pas jouer au gars dans la chaise rouge, ou, je sais pas c'est quoi l'émission, là, de trouver des chanteurs, là. Moi, quelqu'un qui vient chanter l'hymne national pour me faire des vocalises, là, ça m'énerve, tu comprends-tu? Le gars qui a chanté l'hymne national, ça voulait dire quelque chose pour lui. Puis Colin, moi, j'aimerais ça qu'on l'engage, que ça soit un gars de même à tous les jours, à tous les matchs pour l'hymne national. Bref, tout ça pour dire salutations. Je sais que c'était jusqu'à hier, mais c'est pas parce que c'est passé le jour du souvenir qu'on n'a pas une pensée pour vous. Puis hier, c'était très bien fait de la part du Canadien. Bon, j'arrête de jaser. On parlait de notre joueur électrisant.
Ben oui.
Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
Oui, hier, on avait pris Tyler Toffoli. 20 minutes pour Tyler Toffoli. Hier, deux aides. On en avait parlé. C'est sûr que Suzuki le tire dans son sillon, mais lui aussi doit en faire un peu plus. C'est lui qui a manqué la super belle chance de marquer où il s'est fait voler par Markstrom, mais c'est Chiarot qui est rentré dans le top pour aller marquer le but là-dessus. Donc, j'aimais le jeu de Tyler Toffoli qui, lui aussi, tranquillement, pas vite, retrouve ses airs. Puis c'est le cas de dire tranquillement, pas vite, parce que crime qui patine pas dans l'autre au folie. L'an passé, il était lent, mais j'ai l'impression qu'il a perdu une autre vitesse cet été. Puis, garde ta carrière des confesses, là. Tu sais, le monde qui regarde mon décor, puis les cadres sont de même, là. Faites juste savoir qu'à toi, une fois que je me regarde, ça m'énerve. Chez nous, ça a l'air pas si pire, mais quand je regarde ça à TV, c'est pourri. Mais dans mon téléphone, quand je me regarde, c'est relativement droit. C'est 10 fois pire, même, qu'est-ce que moi, je vois.
Non, mais c'est l'illusion optique, parce que moi aussi, mes chandails sont tous au niveau, puis on n'a pas l'impression qu'ils sont au niveau, tu sais. C'est l'illusion optique, mon cher ami. Hey, ils sont corrects, tes cadres, ils sont bien beaux. Mais là, t'en as ton petit en bas, en jaune, là, je vois derrière toi, là, celle-là, c'est lequel? C'est nouveau, ça, à côté de Terry Fox, là?
Là, tu me fais de la peine, le gros, là. Ça fait au-dessus d'un an, il était là à la fin de l'année passée. C'est Every Child Matters, mais tu l'avais enlevé. Après les incidents. Non, c'est après les incidents.
OK, mais tu l'as ramené.
Non, j'ai rien touché. Il est là depuis l'éternité, puis c'est le seul qui est en couleur avec le logo On Jase. Le principe, c'était tout était en noir et blanc, mais tu te souviens du orange, puis à quel point c'était important. Puis je pense que de le laisser là est une bonne chose, parce que c'est pas Every Child Matter juste quand les événements sont arrivés. C'est Every Child Matter à tous les jours. Les enfants, c'est tellement important.
Tu vois à quel point je suis captivé par tes propos. Je n'avais pas remarqué le changement du cadre, mon cher ami. Je viens de te faire un beau compliment. Hey, aujourd'hui, c'est un spécial Guy Boucher. Malheureusement, David Perron ne pourra pas être avec nous. Réunion d'équipe et tout ça. Les Blues qui ont perdu hier en prolongation face aux Prédateurs de Nashville. Mais Guy sera avec nous, donc on va faire nos sujets comme à l'habitude. Mais dans la deuxième portion de l'émission, vers 12h30, on va faire un peu ce qu'on faisait l'an passé avec Guy. C'est-à-dire que Guy répond à vos questions. Donc, les gens vont envoyer des questions du public. On va prendre ça au hasard, puis on va poser des questions à Guy. Je sais que les gens adorent ça. Donc, préparez votre petite question pour tantôt. Envoyez-nous pas tout ça tout de suite, là. On veut pas qu'ils se perdent dans le fil d'actualité. Vers 12h25, là, vous commencez à vous envoyer vos questions qu'on va poser à Guy. Oui, Martin?
toujours eu beaucoup de transparence avec nos auditeurs. David Perron était prévu, c'était oui, tout ça. Et hier soir, vers, je sais quoi, 11h30, minuit, il m'a texté pour me dire, je viens de recevoir un message texte, ils ont déplacé à pratique à 11h45. Donc, il est midi 45 pour lui, le temps de s'habiller, de se préparer. On ne pouvait pas le faire de midi à midi 5. Ça n'aurait pas été professionnel pour lui avec son équipe de hockey. Donc, j'ai dit, garde zéro stress. On se reprend. De toute façon, je pense que son prochain, c'est mercredi prochain. Puis c'est drôle parce que, tu sais, David Perron, sa job dans la vie, c'est d'être joueur de hockey. Je pense qu'il a dû dire, hey, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. J'écrivais, c'est pas grave.
Alors, c'est correct, c'est normal, là, on peut vivre avec ça. Je pense pas que ça choque personne. Je pense que le coach est prêt, on va aller jaser avec lui, on va retrouver notre ami Guy. Salut, coach!
Salut! Moi, je suis pas désolé.
Comment vas-tu?
Ben, je suis pas désolé parce que je ramasse son chèque de paye, puis vu que c'est un chèque de paye de Ligue nationale. Ouais!
C'est vrai. Mais comme je dis, Guy, comme je dis toujours à nos panélistes quand ça arrive à l'occasion, c'est cachet double. Un zéro de plus, mais le problème, c'est que le zéro, il est avant et non après, tu sais.
Ouais, non, c'est ça. Fait que finalement, c'est une faveur. Mais c'est correct, ça. Ça vaut qu'il y a des zéros.
Ouais, c'est ça. Hey, Guy, je commence bien simple. As-tu aimé ton match hier, le Canadien? Tu sais, moi, je suis content, ça fait du bien. Il me semble que ce matin, là, ça... Tout le monde est comme plus léger. Là. Ça, on dirait que ça, c'est fou comment une victoire peut apporter un peu d'accalmie dans tout ça. Comment t'as aimé ton match?
J'ai aimé le match. La seule chose, j'étais un peu déçu. Je pensais que ça allait être un peu plus robuste. Je m'attendais à Calgary avec ce que l'entraîneur avait dit du match d'avant, qu'eux autres n'avaient pas joué un match à la hauteur de leur robustesse habituelle et tout ça, qu'ils allaient avoir un départ meilleur, tout ça. Puis ça a été correct pour Calgary, mais ça a été très bon pour le Canadien. Mais en général, j'aurais aimé ça avoir un match un petit peu plus robuste. Je m'attendais à ça. Alors, c'est toujours une question d'attente, mais pour le Canadien, c'était très bon. Le match en général, c'était un très bon match. Puis je pense que c'était la suite du processus. Alors, je pense que ça a été très décevant pour le Canadien de sombrer, là, de revenir en arrière par rapport au processus. Alors, je pense qu'autant l'entraîneur que les joueurs dernièrement avaient justement parlé de ça, parlé du processus. Ils parlent de choses qui avancent. Puis, on en a parlé il y a quelques semaines. On me demandait qu'est-ce qu'on fait dans des moments difficiles comme ça. Mais c'est ça. C'est de parler d'une chose à la fois pour montrer qu'il y a certaines choses qui avancent. Parce que si tu n'es pas capable de voir à travers le nuage, ben, tu ne te rendras jamais au soleil. Là. Je veux dire, tu vas rester dans ton nuage. Alors, le discours des joueurs, le discours de l'entraîneur et les performances sur la glace en termes de processus alors c'est vraiment le fun de voir que tu réussis à être payé pour avoir conservé ce processus-là avec une victoire. Puis ça prenait ça avant de partir, comme avant le dernier voyage. Je pense que ça prenait une victoire pour relâcher un peu de pression pour tout le monde.
C'était difficile en début de match pour, je le disais tantôt à Yannick, c'était difficile, puis c'est pour ça que j'aimais les Canadiens. Les Canadiens ont montré des belles choses dans les derniers matchs, mais des fois on jouait 20 minutes, des fois c'était 40, des fois on jouait les 60 minutes, mais le gardien ne nous aidait pas. Hier, tout y était, et surtout c'est dans la manière. Les Canadiens avaient beaucoup de difficultés à rentrer en territoire adverse en début de match. Et on a senti un ajustement où le Canadien a réussi à finalement pénétrer dans le territoire des Flames. Qu'est-ce que les Flames faisaient au début de match qui gossaient les Canadiens, qui les empêchaient de rentrer? Et quels ont été les ajustements, s'il y en a eu, puis si tu en as vu?
Bien, la vérité, c'est que je m'attendais en début de match de voir Calgary... avec beaucoup de pression de leurs défenseurs qui venaient s'asseoir sur les ailiers, qui venaient mettre de la pression en zone neutre, la même chose comme on avait vu l'année dernière. Les Canadiens avaient la difficulté avec ça. Mais autant contre Calgary que contre Vegas, qui jouent de la même façon, le Canadien s'est ajusté avec un petit peu plus de profondeur de ses ailiers. Donc, on éloigne les ailiers, ce qu'on appelle un « stretch ». Ce qui permet d'ouvrir le jeu, créer de l'espace un peu. Et puis, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai vu beaucoup moins de pression de Calgary, mais pas parce que le Canadien avait changé. Alors, je sais pas si c'est le produit des derniers matchs de Calgary, mais c'est pas le même Calgary que j'ai vu il y a 3-4 matchs. Alors, pour être franc avec toi, quand il y a des ajustements, je pourrais faire à semblant que j'ai l'air bien brillant, puis oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, puis on fait telle affaire différente. Mais la vérité, c'est que j'ai pas vu ce que je m'attendais de Calgary. Donc, ça a aidé le Canadien dans son identité, de pas être obligé de sortir de sa façon de jouer habituelle. Ce qui fait que le Canadien, je pense qu'avait pas à changer. Au début du match, je trouvais que c'était un petit peu plus difficile peut-être des sorties de zone, mais Calgary était pas comme à l'habitude. Alors, je peux pas dire que c'est parce que Calgary était omniprésent partout en échec avant avec les défenseurs qui mettaient de la pression comme à l'habitude. C'était pas vrai. Alors, je pense qu'il y a eu comme un processus normal dans le match où le Canadien a été bon du début à la fin. Où tu as eu des périodes où Calgary était capable de quand même de bien faire. Mais en général, je pense que le Canadien a fait presque tout bien du début jusqu'à la fin de façon soutenue, puis de tous ses joueurs. Alors, c'est là que je pense que c'est différent de certains autres matchs. C'est pas que ces systèmes ont changé. T'sais, les gens veulent tout le temps penser que parce que la victoire est là, le système a changé ou il y a eu des ajustements.
C'est pas des ajustements.
Pas vrai, c'est pas nécessairement vrai du tout. Des fois, c'est exactement les mêmes consignes, mais un match, tu le fais mieux, l'adversaire a plus de difficultés, toi, ton gardien joue bien, tu prends de la confiance dans ce que tu es supposé faire, tu réussis à le faire bien deux, trois fois, donc la quatrième, cinquième, sixième fois, tu as de la confiance pour le faire. Alors, dans ce temps-là, ça se fait, il y en a qui disent organiquement, mais ça se fait naturellement que la confiance a se bâtit à mesure que le match avance. Alors, moi, j'ai vu beaucoup plus ça. Il y a des ajustements drastiques par rapport au match d'avant.
OK, deux petits commentaires rapides sur Facebook. Ça va nous amener à une question. D'abord, il y a Denis Maheu qui nous écrit depuis Tartu. J'espère que je le prononce bien. Tartu, en Estonie. Première fois que je vous écoute en direct cette année, les gars. Je suis vraiment content que Guy Boucher soit là. Salutations de l'Estonie. Donc, quand même, c'est génial. Il y a des gens vraiment de partout qui nous regardent sur Internet. Et Benjamin Gagnon... Oui, vas-y, Guy.
Je suis déjà allé en Estonie. Magnifique.
Ah oui?
Ah oui, magnifique. Bon. On avait pris un bateau, j'étais entraîneur au championnat du monde en Finlande, et puis on avait traversé avec un bateau pour aller visiter. Alors, avec mon épouse, alors c'était superbe.
L'architecture doit être dans ces pays-là, hein, c'est tout le temps là, de toute beauté à voir. Il y a Benjamin Gagnon, Guy... Benjamin Gagnon qui parle des défenseurs et je pense que c'est Gilbert qui en a fait allusion cette semaine qui trouvait que depuis un ou deux matchs, les défenseurs se portaient plus en attaque. Benjamin dit « Kulak hier flottait sur la patinoire et il s'est porté au moins trois fois à l'attaque à pleine vitesse. Guy, as-tu remarqué ce changement là, au niveau des défenseurs qui viennent appuyer l'attaque? »
Ben écoute, ce changement, c'est plus prononcé. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas demandé ça depuis le début. C'est ça que j'essayais d'expliquer tantôt. C'est comme l'élève. Le professeur, il explique. Il va parler de l'examen ou des travaux à faire. Il va donner les consignes. Puis après ça, ben, tu en as certains qui vont bien l'appliquer. D'autres vont moins bien l'appliquer. Alors, c'est la même chose. Je pense qu'avec le temps, des gars comme Chiarot ont pas eu le choix d'en prendre plus pour essayer de même chose avec Kulak. C'est pas des gars qui sont habitués de faire ça. Habituellement, ils font moins, mais là, on n'a pas le choix de le faire. Je le disais à Hockey 360, quand on parle que le Canadien manque d'offensive, il faut faire attention de regarder juste les attaquants. C'est plus ça, la Ligue nationale. Là. La Ligue nationale, aujourd'hui, la grande majorité de l'offensive part des défenseurs. Alors, c'est les sorties de zone, c'est les transitions, c'est les entrées de zone, parce que les défenseurs appuient l'attaque dans toutes les équipes, c'est les systèmes de toutes les équipes. Et en zone offensive, c'est beaucoup de permutations avec la possibilité des défenseurs d'être très creux en zone offensive parce qu'il y a une permutation avec un attaquant qui vient soutenir le défenseur qui vient prendre sa place. Ça, là, c'est pas une équipe, là, c'est toutes les équipes de la Ligue nationale, c'est toutes les équipes de tous les hauts niveaux. Ça, c'est la nouvelle façon de jouer qui était déjà présente en Europe depuis plusieurs années et qui, tranquillement, mais s'est acheminée vers la Ligue nationale. T'sais, des fois, on pense toujours que c'est les tendances de la Ligue nationale qui influencent le reste du monde, mais ça, c'est comme la mode. Ça. On pense tout le temps de même, mais la mode, à part en Europe, bien souvent, un an, deux ans, trois ans en avance, parce qu'on vient ici après, puis on pense qu'on fait de la nouveauté. Mais... ben, c'est ça. Fait que ça, c'est dans toutes les équipes. Maintenant, est-ce que toutes les équipes sont bonnes là-dedans? Non, parce que c'est ton personnel qui fait que tu vas être capable de le faire sur une base régulière avec beaucoup d'efficacité. Alors, le Canadien, en ce moment, est obligé de se faire une nouvelle identité, comme j'ai dit au début de l'année, parce qu'elle n'a pas les mêmes joueurs qu'avant. On ne peut pas se fier sur Weber, puis on ne peut pas se fier sur Edmondson, il n'est pas là. Alors, il y a des individus qui sont obligés d'en faire un peu plus dans certains domaines. Et oui, que ce soit Kulak, que ce soit Chera, Chera est rendu à 4 buts. C'est pas typique, parce qu'habituellement, il est celui qui est supposé, on dit « backer » en anglais, mais il est supposé soutenir l'autre défenseur qui est le défenseur le plus offensif, que ce soit Weber, que ce soit Petrie. Chiarot, habituellement, est utilisé pour ça. Et là, il n'y a pas le choix. Lui doit devenir ça. Alors oui, que ce soit Kulak ou lui, ou les autres défenseurs, c'est clair qu'ils sont obligés d'en prendre plus offensivement, parce que c'est comme ça que tu vas avoir de l'offensive dans le national. C'est pas que c'est tes attaquants, là, ça s'équivaut d'une équipe à l'autre, à part ceux qui ont des superstars. Sinon, ça vient des défenseurs. Et c'est pour ça que Carey Price manque beaucoup. Pas juste les arrêts. Parce que Carey Price, il est tout à fait phénoménal en relance. Les gens ne réalisent pas comment bon que Carey Price est. Tout ce qui est une rondelle à l'intérieur des points mis au jeu, donc ce qu'on appelle un dump ou projeter la rondelle dans une offensive pour pouvoir mettre l'échec avant, avec Carey Price, tu oublies ça. Ça fait partie du plan de match quand tu joues le Canadien. Je le sais, à toutes les fois qu'on joue le Canadien, là, c'était la première affaire sur le tableau. C'était la première affaire qu'on pratiquait dans les entraînements avant de jouer le Canadien. On pratiquait à pas mettre de rondelles dans le fond de territoire, mais à faire ce qu'on appelle des chips. Donc, c'était des courtes passes en support direct ou indirect, juste derrière les défenseurs, pour pas que la rondelle s'achemine trop loin. Parce que c'était inévitable que si Carey Price le touchait, c'était une sortie de zone. Donc, ça tuait ton échec avant, tu perdais tes joueurs, puis le Canadien était parti de l'autre côté.
Ah oui, puis quand tu parles de l'appui offensif des défenseurs, c'est grâce des fois aux attaquants. Si Chiarot, parce que ses deux derniers buts, il reste planté à côté du filet, si Chiarot fait ça, c'est parce que quand il se lève la tête, il voit qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Tu sais, lui, mettons qu'il a fait la montée, puis là, il fait le tour du filet, puis il regarde, il arrive pour monter, puis il voit qu'il y a un attaquant là. Bien, ça lui permet de se planter deux pieds là, puis d'aller chercher le retour qui traîne en arrière de Markstrom. Fait que oui, le défenseur. Mais oui, les attaquants qui, finalement, ont compris, ne trichent pas, ne se font pas hypnotiser par la rondelle, ça aussi, c'est à mettre en valeur. D'ailleurs, je pourrais vous parler de Suzuki, on va le faire. Je pourrais vous parler de Jake Evans, on va le faire. Mais je vais me faire plaisir pareil. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, Yann, sur le On Jase, sur la page RDS, qui me dit, Luc Payant, entre autres, il dit, Martin, quand j'ai vu tous les retours de Markstrom, j'ai pensé à toi. Il y en a une couple de personnes qui m'ont parlé de ça, de Jacob Markstrom hier. Tu sais que même Marc Denis, des fois, il me disait, tu sais, Martin, t'es sévère avec Markstrom. Puis maintenant, on l'a entendu dans un reportage, Marc Denis, de dire, c'est incroyable la quantité de retours que donne Jacob Markstrom. Et le Canadien en a profité. Ses deux premiers buts, la rondelle est tombée en arrière de lui après le poteau sur un. L'autre, il ne l'a pas gardé avec lui, est tombé en arrière de lui. Puis c'est en allant derrière lui qu'on a ramassé des retours qui traînaient là. Et je suis content de la performance de Markstrom, moi, hier.
Moi, je ne dis pas un mot. Parce que là c'est peut-être vrai tout ça. Sauf qu'après ça, il va peut-être avoir un shutout parce que là, il était numéro un dans la Ligue nationale.
Oui, c'est un bon gardien, mais oui.
C'est ça. Alors, je sais que Martin va en faire une croisade.
OK. Je vais changer de sujet de bord. Mais tu sais, pour moi, Mike Schrum, quand je le regarde, là, c'est comme une machine à gomme. Tu sais, tu te mets en dessous, puis tu te donnes une gomme, puis souvent, la machine est pétée, tu en donnes deux. Là. Ça, c'est Mike Schrum. Bon, parle-moi de Nick Suzuki. Honnêtement, si jamais le Canadien ne fait pas les séries cette année, puis tu sais, ils sont dans un méchant trou, là, ça serait surprenant, mais on ne sait jamais. Les gens pourront regarder Nick Suzuki, qui connaît, après, je pense, ses six premiers matchs, c'était une pause depuis ce temps-là. Sa production est comparable avec McDavid et Draisaitl. Comprenez-moi bien, je ne les compare pas avec eux. Présentement, sur une courte séquence, il y a autant de points qu'eux. Mais il y a le fun à regarder jouer, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un même à Montréal.
Ben oui, il est très fun à regarder les joueurs. En plus, ça a l'air que c'est un bon petit gars, bonne personne, bonne valeur, quelqu'un d'assidu. Alors, ça devient un très bon exemple. Mais il ne faut pas oublier là, que, tu sais, là, on est à la maison là, depuis plusieurs matchs. Et c'est là, justement, qu'il fallait qu'il se fasse la main en termes d'être capable de prendre la pression, d'être le centre numéro un. Mais moi, comme entraîneur, je suis très conscient parce que si c'était mon joueur, là, on s'en va sur la route. Alors, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'à la maison, tu avais la possibilité de le mettre contre qui tu voulais. Tu pouvais le protéger, ce qui a été le cas. Donc, ce qui fait que tu pouvais le mettre dans des situations où il pouvait avoir la tête à l'offensive et il n'était pas pris toujours à jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Puis être obligé de penser dans les deux sens de la patine mort tout le temps, parce que ça, c'est très, très difficile. Les meilleurs joueurs sont capables de le faire avec le temps, pas au début de leur carrière. Alors, c'est là que ce que je veux dire, c'est que je suis très content. Ça me surprend pas. C'est un petit gars très intelligent avec la rondelle, puis il faut être content, mais il faut faire attention à nos attentes pour les prochains matchs. Parce que là, on s'en va sur la route, donc on est sujet à subir les match-up de l'entraîneur adverse, des équipes adverses. C'est sûr que contre Détroit, ça va être moins pire, mais il va y avoir des matchs plus difficiles contre Boston parce que
si jamais... Boston, dimanche.
Oui, ben c'est ça. Si jamais, ce que moi, je ferais, je ferais jouer Alain Bergeron, Pasternak, puis Marchand contre Suzuki à toutes les fois, c'est clair, parce que j'enrayerais l'effet de Suzuki, des Hoffman et de Toffoli, ce qui fait que ça devient extrêmement difficile sur la route. Et c'est cette progression-là, ce cheminement-là que Suzuki va avoir à faire dans les prochaines années. Et éventuellement, il va être capable de le faire, de jouer contre les meilleurs, d'être capable de produire et de défendre en même temps. Mais il faut faire attention à nos attentes, quand ils vont aller sur la route, pour qu'on soit fair avec le petit gars. Et ça, je le sais, je le dis tout le temps, mais moi, c'est parce que j'ai la tête d'entraîneur avant tout. Je regarde pas le match. Hier, je me suis pas amusé à écouter le hockey. Là. Je m'amuse jamais à écouter du hockey. Je regarde ça, puis je l'analyse. Même quand je veux pas l'analyser, c'est juste ça que je vois. Fait que je regarde juste les détails, puis c'est la première chose que je me dis. Là, on s'en va sur la route. Suzuki, ça fait partie de sa progression d'être testé comme ça sur la route pour pouvoir passer à un autre niveau.
On parlait de Suzuki. Guy, je te lance bien vite parce que la pause télé s'en vient, mais on poursuit sur le web et je rappelle aux gens qu'on va répondre à vos questions à compter de 12:30. Parle-moi un petit peu de Jake Evans.
Ben écoute, regarde, c'est pas compliqué. Quand Jake Evans est bon, le Canadien ne gagne pas. Quand Jake Evans est excellent, le Canadien gagne. Il donne une chance. Pourquoi? Okay. C'est parce que quand... quand il est excellent, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est qu'il se hisse au niveau de la qualité d'un vrai numéro un. Alors, ça prend un Jake Allen excellent pour finalement égaler un Carey Price normal. Fait que c'est ça, là. Fait que, hier, il a été excellent. Et justement, le Canadien n'a pas gagné par deux buts, c'est un filet désert. Donc, le Canadien a gagné par un but. Fait que vous imaginez encore. S'il n'avait pas été excellent, s'il avait laissé rentrer un but sur le côté court ou un mauvais but, juste un, là. C'est un match nul ou peut-être que parce qu'il a laissé ce but-là tôt dans le match, c'est pas le même match du tout, même si le Canadien jouait bien. Fait que c'est ça, là. Alors, on n'a pas le choix, ça prend Jake Allen excellent.
C'est le fun, c'est bon, parce que vous avez une belle communication, vous autres.
Parce oui, que je t'ai demandé de me parler de Jake Evans. Ah! T'es parlé bon. David, tu parles sur Allen, mais c'est correct.
C'est excellent. On a fait l'autre, Jake.
C'est bon. Fait que les deux Jakes sont faits. Moi, je suis comme le Clarica. Je vais expliquer les choses qui se passent entre vous deux. Les gens à télé, on poursuit.
C'est-tu Martin? Sais-tu qu'est-ce qui est bon? C'est quand j'ai posé ma question, j'ai dit, Guy, parle-moi un peu de Jake Evans. Là, tu pars, tu dis, quand il est bon, le Canadien perd. Quand il est excellent, le Canadien gagne. Là, j'étais comme... Là, j'avais hâte, tu me donnes l'explication. Là, c'est ça, j'ai dit, pas moi, il a compris Allen. Oui,
j'ai compris Allen. Je m'excuse auprès de vous, auprès du public.
Juste drôle, on s'est trompé de Jake, c'est correct.
Non, mais ça a plongé. J'ai encore les oreilles bouchées là, de mon voyage.
C'est toujours des oreilles.
Ben, parle-moi-en donc, Jake Evans. Evans, 71, ben, Guy.
Ben, je l'ai adoré. Je veux dire, lui et Lekkonen, pour moi, depuis le début de l'année, là, c'est les deux joueurs qui sont là à tous les matchs. C'est deux gars d'exemple d'éthique de travail, de payer le prix, à l'intérieur des points mis au jeu offensivement, défensivement. C'est ces gars-là qui protègent ton éthique de travail, qui inspirent les autres, qui sont contagieux. Même quand le Canadien est débiné, même le Canadien joue mal, eux autres, ça n'a pas changé depuis la première fois qu'ils ont mis le pied sur la glace depuis le début de l'année. Et moi, j'adore des gars comme ça.
Il a poigné un petit quelque chose, Jake Allen, Guy. On nous disait qu'il était blessé là, puis qu'il ne pouvait pas se faire justice. Moi, je trouve que depuis 4-5 matchs, il a poigné une petite coche de plus.
Là, on parle-tu de Jake Evans?
Oui, parce que tu viens de dire Allen.
Parce que tu viens de dire Jake Evans.
Eh oui!
Non, c'est moi qui viens de faire la gaffe. Là. Hey, ouais. On va y aller par numéro. Le 71, tu sais, Duchamp disait souvent qu'il l'avait laissé de côté parce qu'il disait qu'il était blessé. Ça ne pouvait pas s'aggraver, mais il n'était pas capable de se faire justice. Moi, je trouve que depuis 4 matchs pour jouer safe. Là. Je trouve que depuis 4 matchs, j'ai pas eu une coche de plus. Et je parle bien ici du joueur de centre numéro 71, Jake Evans.
C'est pas vendredi. Pas de patte de gardien. Oui, sauf que c'est pas son éthique de travail qui a changé. C'est sa confiance avec la rondelle. Parce que sans rondelle, il était déjà bon. Son éthique de travail était excellent. Il était premier sur la rondelle. Il défendait. Il était en bonne place, tout ça. Fait que ça n'a pas changé. C'est sa confiance avec la rondelle. Tu as raison. Il y a une progression. Et on s'aperçoit comment il est intelligent avec la rondelle. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Il a du sens du hockey. Ça, on demande souvent aux gens. Je me fais demander pour faire des conférences. Puis c'est toujours pas moi du sens du hockey parce que. Tout le monde en parle, mais personne n'est capable d'expliquer. Le sens du hockey, c'est être capable de lire les espaces libres. T'sais, essayer de déjouer quelqu'un entre les pattes, là, c'est pas du sens du hockey. Ça, c'est du talent. Puis souvent, ben, c'est pas intelligent parce que il y a 8% des déjoues qui fonctionnent au niveau. Ben non, c'est ça, c'est pas le jeu à faire. Ça fait que pour une fois que tu réussis à passer entre les pattes, les neuf fois que tu fais des revirements, ben c'est ça. C'est pas du sens du hockey. Alors un gars comme Jake Evans, moi ce que j'aime de lui, c'est qu'est-ce qu'il se permet, il se le permet au bon moment, aux bons endroits, pour les bonnes raisons. Puis il y a une lecture de l'espace libre avec et sans rondelle exceptionnel. Alors ça fait que en ce moment, dans une équipe de premier plan, genre à Tampa, il serait quatrième ligne. Là. Faut pas se leurrer. Là. On est content de lui, mais dans son rôle et dans ses capacités. Sauf que pour moi, quand tu vois qu'un gars a ce travail-là, a ce type de vision-là et ce sens du hockey-là, ça te démontre qu'il y a une possibilité un jour, mais pas là, là. Alors, on ne partira pas en peur, qu'il y a une possibilité un jour qu'il pourrait peut-être devenir un centre numéro 3. J'aime pas ça de donner des chiffres là, parce que ça dépend des autres centres là, pour que les gens comprennent c'est que peut-être que même dans une très bonne équipe il serait peut-être pas limité à une quatrième ligne et ça je trouve ça excitant parce que c'est vraiment plaisant, t'sais, comme entraîneur ça c'est les gars les plus fun avec qui travailler ça c'est oui coach puis ça travaille tout le temps puis qu'est-ce que tu veux que je fasse puis en plus ça l'apprend très très vite donc le plafond d'apprentissage est très élevé.
OK. Là, avec Yannick Yay, tu as dit quelque chose sur Jake Allen. Ça, c'est le gars avec les grosses pattes, le gars avec le beau masque. Tu as dit quand il est excellent, le Canadien gagne. Quand il est juste bon, le Canadien perd. Je suis d'accord. Hier, le premier but dévié, c'est correct. Je suis capable de vivre avec. Le deuxième sur Japani, on en a parlé tantôt. On n'était pas content, sauf que, contrairement à d'habitude... Deuxième période, je pense, en désavantage numérique, a fait quelques arrêts, puis on dirait que ça l'a mis en confiance. On était beaucoup moins stressés. En début de match, là, Allen, là, il n'était pas dedans. Il faisait des arrêts de peur, puis là, à tout lancer, on faisait « Iiii! » Mais il est arrivé un moment, deuxième période, qui a fait 2-3 arrêts solides, puis par la suite, on a senti un gardien de but plus en confiance. Puis ça, Guy, je pense que les coachs et les joueurs s'en rendent compte quand ça arrive.
Ah, 100%. Puis il ne faut pas oublier, là, le Canadien a marqué, là. Si le Canadien ne marquait pas, c'est plus difficile pour le gardien de but de respirer parce que là, il sait qu'il y a encore plus de pression pour les passer. La seule chose, c'est que je vais le défendre. Je repensais à ce qu'on s'était dit, Martin. Je vais le défendre sur le deuxième but de Japanais. Okay, Japanais, Man Japanais, c'est un but exceptionnel. Techniquement, là, ce qu'il a fait, là, c'est tellement difficile à faire, c'est très rare. Mais c'est quand même un but, ce qu'on appelle short side, côté court, un revers avec une rondelle. Sauf que la différence de ça par rapport à d'autres buts de l'extérieur qu'il y a eu avant, c'est que c'est quand même un jeu qui a traversé, une rondelle qui a traversé, c'est une entrée de zone, un 3 contre 2, qui était presque un 3 contre 3. Là, Suzuki n'a pas fait la job là-dessus. Mais la rondelle, elle passe d'un côté complètement de l'autre côté. Ça prend un déplacement. Alors, moi, je peux pas dire que c'est un but faible. Normalement, tu peux arrêter ça, mais c'est quand même pas un but faible. Moi, les buts faibles, short side, qu'on appelle, c'est un gars rentre à l'aile, à l'extérieur des points de mise au jeu, pas personne devant.
On va ramener le nom de la TV, là.
C'est ça. Alors, les gens de la télé sont de retour avec nous. Guy est en feu, est en verve, c'est le fun. Les gens apprécient plein de bons commentaires du public. J'en ai vu passer un tantôt, je vais vous le lire. André Tremblay sur Facebook. C'est une fameuse bonne émission que vous faites, les gars. J'adore vous écouter comme ça, donc c'est le fun. Et là, la prochaine demi-heure, les 30 prochaines minutes, c'est on jase, mais on jase le public. Guy répond à vos questions. Vous nous écrivez rds.ca, Facebook on jase, Facebook RDS. On va essayer d'en passer le plus possible. Je sais que Guy apprécie faire cet exercice-là. Et c'est un lien pour vous, gens du public, direct, de poser vos questions à Guy. Je commence avec une première qui ne vient pas d'Internet. Je te raconte, Guy, bien, bien vite, en 20 secondes. J'ai un résident de mon quartier ici, un amateur de sport, un gars que je connais bien, Sylvain, qui marche et que je le croise chaque jour. Hier, je suis en train de ramasser mes feuilles. Puis là, ça fait comme un mois qu'il me dit « Hey, j'aimerais ça que tu poses une question à Guy Boucher. Je l'adore. Moi, quand il raconte ses affaires, je bois ses paroles. » Puis là, j'oubliais tout le temps. Puis là, hier, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça que tu poses une question. » J'ai dit « Je te promets que je vais faire ça avec lui demain. » Je la pose.
Hey, ça fait plus
Sylvain
que 20 secondes.
Veut... Oh, mais là, 20-25. Sylvain veut savoir...
En vrai, Albert.
Pourrais-tu expliquer une défensive man-to-man et une défensive de zone?
Oui, absolument. C'est sûr qu'avec un tableau, ça serait beaucoup plus facile, là, mais je vais tenter de le faire simplement. C'est qu'une défensive de zone, c'est la défensive qui a été utilisée pendant 40-50 ans, peut-être, dans les nationales, puis normalement en Amérique du Nord, en général. C'est-à-dire que la défensive de zone, c'est que tu vas avoir habituellement ton deuxième défenseur, donc celui qui ne va pas mettre la pression dans la zone, donc celui qui est proche du filet. Lui, tu vas l'avoir pas loin du filet, qui est aux aguets, ce qu'on appelle un halfway man, donc à moitié chemin entre la rondelle, l'adversaire libre et le filet. Donc toujours prêt à pouvoir récupérer ce qui se passe, des joueurs qui s'amènent à l'intérieur, des rondelles qui s'amènent à l'intérieur. Donc c'est là qu'on dit on garde un défenseur à l'intérieur. L'autre défenseur est le centre, donc le bas de la zone. La pression vient du premier défenseur et du centre, qui vont y aller en tandem, si tu veux, dans tout ce qui est en bas. Il y a des entraînances en bas des hash marks, là, des points mis au jeu. Il y en a d'autres que c'est en bas du top des cercles. Mais leur boulot, c'est tout ce qui se passe en bas, c'est en tandem. Dans le sens, t'as ce qu'on appelle un hitman, le gars qui va mettre la pression. C'est soit le centre en premier, soit le défenseur. C'est toujours le joueur le plus proche qui va mettre la pression sur le porteur et qui va être supporté par le deuxième joueur. Donc, si c'est le centre en premier, donc c'est le premier défenseur qui va venir supporter. Et si c'est le défenseur, ben c'est le centre qui va venir supporter. Et là, ça va se promener d'un côté à l'autre. Et c'est là que le deuxième défenseur va laisser devant. Si ça passe d'un côté à l'autre derrière le filet, ben le deuxième défenseur, c'est lui qui va devenir le gars de pression. Et le centre va passer d'un côté à l'autre pour venir supporter. Et le premier défenseur qui met la pression, ben lui, c'est lui qui est rendu devant le filet. Ça, c'est ce qui se passe en général, en bas de zone. Les deux autres joueurs sont habituellement les ailiers. Et les ailiers vont demeurer, dépendamment si le jeu est en bas, bien, les ailiers vont être très bas pour venir aider tout ce qui se passe dans l'enclave. Mais quand le jeu est en haut, c'est eux qui vont être en charge de gérer ce qui se passe avec les défenseurs. Alors, eux sont chargés plus haut. Alors, si j'avais un dessin ici, je vous dessinerais un X finalement. Un X qui va finalement couper la zone en quatre, alors en quartier. Alors, tu aurais les deux joueurs en haut qui sont en charge d'en haut, et puis tu aurais dans les deux quartiers du bas, tu aurais les trois joueurs qui vont se partager la tâche. Donc, dans le coin de la rondelle, tu en as deux avec le défenseur dans l'autre quadrillé. Ça, c'est la défensive de zone que chez nous, on utilise dans le novice, bon, tout ça. Là, dans l'Europe, ça a toujours été, puis ça l'est encore. Moi, il n'y a aucune équipe que j'ai vue, sauf les équipes coachées par des Canadiens ou des Américains, qui jouent de la défensive de zone. C'est toute la défensive, ce qu'on appelle man-to-man, homme pour homme. Ce que c'est très, très simple, c'est que t'identifies un homme et ça demeure le tien. Alors, c'est pour ça que dans une défensive d'homme pour homme, comme on a vu Las Vegas faire l'année d'avant et d'autres équipes, une fois que tu as identifié ton homme, même si tu es un défenseur, si ton joueur monte avec la rondelle en haut de territoire, ben, tu vas le suivre jusqu'en haut. Alors, c'est pour ça que des fois, j'écoutais à la télévision, à différents postes, des gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le défenseur, où c'est que le défenseur est rendu? Tout ça, ouais, mais c'est passé de l'homme pour homme. Alors, ça veut dire que tu laisses le droit à ton défenseur d'être rendu complètement en haut. Pourquoi? Ben, parce que si tu as un défenseur adverse qui a décidé de descendre plus bas, ben, ton joueur va descendre plus bas, puis il va le garder. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de permutations d'endroits. Donc, c'est pas des zones. C'est ça la différence. Une défensive de zone, tu as ton quadrillé que j'expliquais tantôt. Voici tes zones, puis tu travailles à l'intérieur de ta zone. Si c'est pas ta zone, tu t'en vas de là. Alors, défensive de zone, tu n'en as pas de zone. Tu vas suivre l'ongle de ton gars jusque dans les toilettes s'il s'en va dans les toilettes finalement. Et ça, on apprend ça. On apprend ça depuis novice, tout petit. Là. Mes enfants, moi, quand on était en Suisse, ils ont appris ça là, dès le départ. Et ils sont très bons dans les 1 contre 1 à cause de ça, parce qu'ils sont très, très alertes à percevoir où les joueurs s'en vont, parce que même s'ils n'ont pas la rondelle, c'est ta responsabilité de couvrir ce joueur-là. Et il y a des forces et des faiblesses des deux. Et maintenant, dans la Ligue nationale, tu ne vas pas avoir toujours de défensive de zone ou de la défensive hybride. Oui, en ce moment, on voit beaucoup d'hybrides. Et hybride, c'est que tu vas avoir de l'homme pour homme peut-être dans ton bas de zone et tu ne l'auras pas dans la haute zone. Ou l'inverse, tu vas avoir de la zone en bas puis tu vas avoir de man-to-man en haut. Et la raison pourquoi ça a changé... Et la raison pourquoi on voit des équipes essayer homme pour homme maintenant comme en Europe, c'est pour la raison que j'ai mentionnée tantôt. C'est à cause de la nouvelle activation prononcée des défenseurs dans la Ligue nationale.
Exact.
Et parce qu'avant, les défenseurs restaient pas mal sur la ligne bleue. Mais maintenant, ils se promènent partout. Fait que toi, si tu joues la défensive de zone, puis tu es un ailier, puis tu restes dans ta zone, mais ton défenseur n'est même plus là, il est rendu dans un autre territoire, tu ne sers absolument à rien. Alors, ce joueur-là devient ouvert. Alors, tu es obligé maintenant de pallier à cette activation des défenseurs-là. Et comment on le fait? Ben, on essaie de jouer comme en Europe, de l'homme pour homme. Mais on s'aperçoit qu'en Amérique du Nord, ce n'est pas toujours possible.
Tu sais qu'on a d'autres questions?
Je l'aimais, cette question-là. Là. J'avais de la passion pour cette question-là.
Il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de blagues à ton sujet. Il faudrait mettre un timer, 2-3 minutes. Guy, peux-tu écrire...
On va laisser faire les blagues.
Guy, tu peux-tu te servir... ben non, moi, je trouve ça très drôle. Guy, tu peux-tu te servir du mur blanc derrière toi? Je suis convaincu que Marchand ne sera pas fâché. C'est une option, comme tableau. Il y en a qui vont de prédictions sur le nombre de questions qu'on va prendre avant 13 heures. Donc, on va faire un test avec toi, Guy. On va y aller avec une ou deux questions, voir si tu es capable de les faire en quelques secondes. C'est des questions faciles.
Ouais, mais ça, on allait dire, c'est pas fair, là. Là, vous m'avez demandé une question complexe, puis vous me demandez de le faire...
C'est pour ça que je te l'ai posé en premier.
Ben, en premier, parce que si tu veux une vraie réponse, moi, t'en donner une vraie, mais si tu veux que je te botche ça, moi, t'as le botché aussi, là.
Je veux pas que tu botches. Question facile à répondre, pas très longue. Simon Lapointe, pourrez-vous demander à Guy Boucher, à part de coacher dans la Ligue nationale de hockey, as-tu déjà été dans un poste de direction dans une équipe?
Laisse-moi penser... 25 ans, là, faut que je recule loin.
Mais non, le roman était déjà.
Non, mais jamais avec un titre, là, mais des fois avec beaucoup d'implications avec le deuxième étage, mais non, pas avec un titre.
OK. David Saint-Laurent s'est essayé hier avec une question. Il la repose aujourd'hui. Je me permets de reformuler une question sans réponse que j'avais postée hier. Comment la performance de ton gardien influence-t-elle le niveau de prise de risque parmi ton coaching staff?
Ha! Énorme! Énorme! C'est... Tout part avec ton gardien. Si tu as un gardien phénoménal, tu vas avoir une équipe qui peut prendre plus de chances. C'est clair, 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 clair. Tu vas changer tes systèmes par rapport à ton gardien de but. Tu vas le faire en désavantage numérique. Même par rapport à ton avantage numérique, parce que tu sais que tu peux être plus osé en avantage numérique quand tu sais que même si tu donnes un 2 contre 1, une fois de temps en temps, que tu vas t'en sortir. Alors... Les joueurs sont craintifs quand ton gardien, c'est pas un gardien de premier plan. Les entraîneurs sont craintifs, puis t'as pas le choix. Tu sais, c'est comme si tu t'en allais à la guerre, puis tu te dis, OK, on a un plateau, là, puis on s'en va attaquer. Mais tu sais que en arrière, dans ton bunker, t'as pas beaucoup de joueurs, t'as pas beaucoup de soldats, ou t'as pas beaucoup de munitions, ou t'as de la difficulté à te défendre. Bien, c'est sûr que tu pourras pas y aller aussi aisément à l'attaque, en étant confiant que tu es capable de te défendre chez vous. Là. Fait que ça, ça change tout. Si tu es un gardien moyen ou moindre que ça, tu ne peux pas être une équipe qui est agressive et qui laisse beaucoup de liberté à tes joueurs offensifs. C'est impossible. Tu ne gagneras pas de match. Alors, tu vas vouloir. Bon. Tout le monde veut ça, que ça soit excitant. Mais c'est parce que tu vas perdre. Fait que tu vas perdre ta job, puis tes joueurs vont se faire échanger. Puis ils vont... Ça va ensemble, ça.
Bon. Là, je sais qu'il y a eu bien des blagues, puis ça t'a fait de la peine. Juste te dire que ta plus grande fan, c'est-à-dire ma mère, écrit « Je l'adore, ce monsieur ». Elle t'appelle monsieur. donc, tu vois, il y a du bon. Il y a du bon. Ça se poursuit avec les questions. Écoute, je l'ai perdu, mais c'est quelqu'un qui te demandait, Guy, on parle souvent, je l'ai ici, c'est Yann Grenier. Puis je veux juste dire à Mario Lucier des questions comme « Quelle équipe tu voudrais coacher? » Je peux pas poser ça à Guy. T'sais, il va répondre au pire vague en disant « Une équipe qui a un bon gardien. » Mais moi, si tu veux répondre, tu répondras, mais au moins, j'ai répondu à Mario. Yann Grenier t'a dit « Question pour Guy. On parle toujours de sortie à 5 et d'un support offensif. Comment expliques-tu tes joueurs, comment tu expliques à tes joueurs un 5 feet support dans les 3 zones?
Bon, première des choses, il y a des termes sexy là, qui partent des fois, là, puis tout le monde utilise. Là, tu sais, en anglais, puck possession, la possession de la rondelle. Fait que là, on dit toujours on est un
puck possession. 1-3-1.
C'est ça. Ouais, puis, tu sais, on est un possession de rondelle. Là, la mode en ce moment, c'est unité de 5. T'sais, unité de 5. On supporte à 5. Tout le monde, on est 5. On est connecté. On est connecté. Ça, c'est la grosse mode. Tous les joueurs le disent, tous les médias, on joue bien connecté, 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 connecté. Sauf que tu es connecté, ça dépend de la situation. T'sais, on parle de 5 feet support. 5 feet support, c'est du support de 5 pieds entre tes joueurs. Mais ça dépend tout le temps aussi de l'adversaire. Exemple, si Calgary hier joue comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été aussi agressifs avec leurs défenseurs. Bon, eux autres vont venir s'asseoir sur les ailiers très tôt. Donc, tes joueurs, tes ailiers sont pris. Et alors, si tu joues ce qu'on appelle du 5 feet support, ce que moi j'adore, c'est d'avoir du support très, très rapproché entre tes joueurs pour pouvoir qu'ils s'aident. Et premièrement, ils sont visibles pour les coéquipiers et les passes sont courtes, sont rapides. Et si on perd, ben, on a quelqu'un pour aider immédiatement. Alors, moi, c'est ma philosophie de base. Par contre, j'ai pas le choix d'ajuster comme entraîneur. Si on joue contre une équipe, contre Calgary, par exemple, qui met beaucoup de pression sur l'ailier, je ne peux pas demander à mon ailier qu'il soit un 5 feet support pour mon défenseur ou pour le centre. Parce que là, on va être jammé. Alors, comme les Canadiens étaient l'année passée, presque tous les matchs contre Calgary. Alors, lorsqu'on demande, on demande un stretch. On demande à ton ailier rapproché de sortir de la zone ou le plus haut possible pour ouvrir cet espace-là pour ne pas être pris. Alors, même si le défenseur veut mettre de la pression, mais si c'est en dehors de la zone, ben c'est pas grave parce que ta rondelle est sortie de ta zone. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là. Tu vas avoir de l'espace entre ton ailier, puis ton centre, puis tes défenseurs. Donc, ça va ouvrir le jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle faire un stretch. Puis après ça, est-ce que tu as besoin d'un stretch ou tu as besoin de 2 stretchs? Ça dépend de la hauteur du centre de l'adversaire. En repli défensif et en échec avant. Alors là, tu vas peut-être avoir besoin de 2 stretches. Alors là, tu ne peux pas parler de 5 feet support. Tu comprends? Fait que ça dépend vraiment du style d'équipe que tu as. Si tu as des alliés qui sont lents, ben, tu vas leur demander de sortir, comme San Jose. Pendant plusieurs années, on jouait un stretch à 2 gars. Et, fait que c'est pour ça que tu as d'autres équipes qui vont jouer un slash. Un slash, tu vas garder ton ailier rapproché, pas nécessairement très haut, mais ton ailier éloigné va couper à travers. Pourquoi? Parce que ça sort le deuxième défenseur adverse de la zone, donc ça l'ouvre le jeu d'une autre façon. Alors, ça dépend vraiment du type de joueur que tu as et de contre qui tu joues.
Il y a Martin Lajoie, Yann, je te laisse aller dans deux secondes, mais il y a Martin Lajoie qui te demande, j'ai manqué le début de la réponse, peux-tu recommencer?
C'est bon. Hey Guy, tu sais que Danick Martineau, qui est un collaborateur à RDS, qui anime l'après-match de Danick, est aussi un fidèle auditeur de Ongeance, puis il vient de t'envoyer une question sur Facebook. Alors, Danick te demande, question pour qui? Aimes-tu ce que tu vois de Gallagher? Il travaille fort, mais j'ai l'impression qu'il tue le jeu aussitôt qu'il touche à la rondelle.
Ben, ça dépend de la situation. C'est sûr que Gallagher, c'est pas le joueur que tu veux donner la rondelle souvent en zone neutre. En sortie de zone, très bon, capable de bien protéger la rondelle, va rarement faire des revirements parce que c'est un gars qui a pas peur sur le long des rangs, c'est un gars qui est capable de protéger physiquement et tout ça. Même chose en zone offensive. Donc, pour moi, il ne tue pas le jeu en zone offensive. Au contraire, tout ce qui est du top des cercles jusqu'en bas de la zone offensive, il est excellent autour du filet. Mais oui, ce n'est pas sa force que du top des cercles de ta zone jusqu'au top de cercle adverse. Toffoli est un peu semblable. Dvorak est un peu semblable. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui manquent de vitesse. Donc, c'est des joueurs qui ne peuvent pas avoir la rondelle longtemps dans cet endroit-là. Et donc, ces joueurs-là, on va leur demander de bouger la rondelle rapidement quand ils l'ont dans cet espace-là qui est principalement la zone neutre. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir eux-mêmes du pétrin quand ils l'ont. Des gars comme Hoffman est complètement l'inverse. Hoffman, dans sa zone, sur le bord de la bande, difficulté devant le filet, difficulté sur le bord des bandes en zone offensive. Par contre, tout ce qui est en zone neutre avec l'espace, il est excellent. Alors, c'est pour ça que sur une ligne, il faut que tu prévoies d'avoir des individus capables de gérer différentes choses. Alors, si tu as Gallagher sur une ligne, bien, tu vas vouloir que ton centre et ton hôtelier, ou au moins un des deux, soient capables de faire un bon travail en zone neutre, d'être capable de charrier, ce qu'on dit que charrier en bon québécois, donc de transporter la rondelle en zone neutre. Parce que si tu es pris avec deux gars comme Gallagher sur le même trio, bien, la zone neutre, elle va être difficile. Parce que même si tu as un joueur capable de traverser la zone neutre avec vitesse, il finit par être tout seul à attaquer à la ligne bleue. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas d'option. Pas si ça répond
à la question. OK, Guy, une autre sur... Oui, tout à fait. Une autre rapide sur Facebook. Sean Doiron, et là, je la lis textuelle. Salut, Guy. Qu'est-ce que tu penses de la situation du Canadien sans capitaine sur la glace et la situation très brouillard concernant Weber? Est-ce qu'il revient pas, fini, retraite ou non? Pourquoi le Canadien nomme pas un capitaine?
Ben, tu peux pas en avoir. Parce que tant que Shea Weber ne va pas dicter c'est quoi la décision finale, vers où il s'en va par rapport à son retour ou pas de retour, tu peux pas mettre un autre capitaine. Ça se fait pas. Fait que là, tu as des assistants en attendant. La vérité, ça change absolument rien. C'est pas le capitaine qui coach, là. Et puis t'as des gars qui sont même pas des assistants, qui sont des meilleurs leaders que le capitaine et les assistants. Je parle pas chez les Canadiens, je parle en général un peu partout, t'en as de ça partout. T'as même des fois que les capitaines, et c'est pas le cas du tout, là. Weber, c'est un superbe leader, mais t'as des gars ailleurs, t'as des équipes qui ont des capitaines, puis le capitaine, c'est le cancer de l'équipe. Fait que bon, c'est pour ça, là, l'histoire du capitaine. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Du leadership, là, c'est pas un statut. Leadership, c'est de l'influence. C'est du courage puis de l'influence. Les titres puis les statuts, là, ça fait pas toi un leader du tout. Alors, même que des fois, ça l'étouffe du monde qui sont encore moins bons leaders qu'ils l'étaient avant. Alors, ça n'a aucun impact. Maintenant, est-ce que tu veux avoir pas de capitaine pendant plusieurs années? Non. Mais à court terme, comme ça n'a aucun impact. Puis tant que c'est pas réglé par rapport à Weber, tu peux pas mettre un autre gars capitaine.
Daniel Martineau qui avait posé sa question tantôt a renchiré en disant « Guy, je t'aime tellement, peux-tu être le parrain de mon futur enfant?
» Du grand Danny.
Pete Robert sur rds.ca. On fait beaucoup de blagues, les gars, les gens s'amusent, ont du fun. dans le plaisir et dans l'utile. Pete, il dit, Martin, tu pourrais faire un concours qui ramasserait des fonds pour une cause de ton choix, les enfants. Et le Grand Prix, c'est d'écouter un match avec du Canadien avec toi, Yannick, et un invité de Ongeaz. Il dit, moi, je prendrais soit Guy ou Bélé. T'en penses quoi? Fait que moi, je dis, c'est une bonne idée. Et là, il y a Martin Lajoie qui fait les blagues depuis tantôt, qui dit, moi, j'aimerais vraiment ça, gagner ça anytime avec Martin et Guy. Et plus tard, Martin rajoute, oh, j'ai oublié Yannick, mais au final, il serait pogné comme moi, il pourrait pas parler de la soirée, ce serait juste Martin et puis Guy qui parlerait. Et les gens écrivent... Les gens écrivent, ça serait vraiment une bonne idée, ramasser de l'argent pour une bonne cause, etc. Mais non, c'est une bonne idée. Je mets ça dans la boîte à suggestions. J'aime ça. Il y a eu plusieurs questions. Là, je vais retrouver parce que ça l'a flyé, mais c'est bon, ouais, parce que Guy Pimon en a parlé.
Là, tu viens de me transpercer le cœur. Yannick, vas-y, jase-nous.
Mais non, Yannick, c'est moi, je pose des questions. Oui, Martin veut parler, là. Vas-y.
Non, mais moi, je vais entendre.
Arrête, là, il fait pas pitié.
Ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Faut étaler nos affaires, là, Martin. Guy Boucher et Martin Lemay, là, garde, on fait pas une bonne job, là.
Non, vas-y, pose. On s'écrit depuis tout à l'heure, moi, puis Yannick, on partage toutes les tâches. On fait tout. C'est le gars à qui je parle le plus souvent dans la vie, plus que ma blonde.
Oui, là, tu partages les tâches comme chez vous, ceux-là, là. Ta blonde a fait toute la bouffe, toi, t'en manges. Toi, tu salis le linge, elle la lave.
Hey, enfin, il y en a un qui vient à ma défense. Vas-y, bon, Martin. Vas-y avec une question. J'en ai plein sur Facebook aussi.
Oui, moi aussi. Écoute, il y a un débat. Il était parti sur la page Ongeaz. Je ne trouve pas le nom des gens parce qu'il y a eu beaucoup de questions depuis. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt. Le fameux débat Lekkonen. Evans en a parlé tantôt, puis là, il y en a qui ont rajouté Armia là-dedans. C'est drôle parce que Guy, tantôt, tu me disais à quel point tu aimais ce que Lekkonen amenait, et là, il y en a qui ont écrit ça sur la page Ongeaz, et là, il y en a qui sont arrivés. Ça ferait du bien qu'il arrête de swinguer dans le vide puis qu'il score de temps en temps. Départage, en moins de 3 minutes, le débat Lekkonen.
Moi, il n'y en a pas de débat. Là. Il est ce qu'il est. Là. C'est sûr qu'on aimerait bien ça. Moi, j'aimerais ça aussi que mes enfants aillent 100% école. Même mon gars, 95-96 de moyenne générale, ça serait bien le fun qu'il aille 100. Ça, oui, puis j'ai mes deux filles, ça serait bien le fun qu'ils m'écoutent tout le temps. Puis, mais sauf que si je regarde juste ce qu'ils font pas, le 5 à 10% qu'ils font pas, puis je fais fi du 90% qui est excellent, mais c'est mes attentes à moi qui sont pas en bonne place. Fait que les gars comme Lekkonen, puis Evans, là, il produit un peu plus, mais ces gars-là, ils sont pas là pour la production. Ils sont là pour être les protecteurs de l'identité, d'éthique de travail puis d'acharnement de l'équipe. Ils sont là pour inspirer les autres quand tout le monde est débiné. Ils sont là pour leur premier sa rondelle quand l'équipe dort au gaz. Ils sont là pour aller devant le filet quand les joueurs de talent y vont pas. Ils sont là. C'est ces gars-là qui réveillent l'équipe. C'est ces gars-là qui, dans les mauvais matchs, ils vont se présenter pareil, puis tranquillement, ça va avoir de la contagion sur un, sur l'autre et sur l'autre. Alors, tu ne peux pas évaluer l'apport de ces gars-là en regardant juste les statistiques. C'est des gars qui ont de l'influence sur les autres à cause de leur implication, de leur engagement. Quand des gars qui n'ont pas une bonne journée puis qui voient ces gars-là, même quand c'est 4-0 qui sont acharnés, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Tu n'as pas le choix, tu as honte de pas travailler comme eux autres. Fait que tu le fais. Là, tu vas chercher un gars de plus, un autre gars de plus, un autre gars de plus. Et ce que ça fait, c'est éventuellement, ton équipe, ben c'est une forme de leadership, ça. Ton équipe va devenir travaillante. Les matchs là, où ça allait pas, les Canadiens dormaient, c'est qui a mis ça à la glace? C'est le coach. C'est ces gars-là. Puis c'est eux autres qui ont parti de club. C'est eux autres qui ont parti de balle. Puis éventuellement, c'est un autre gars qu'eux autres scorent. Oui, mais c'est parce qu'eux autres ont parti de balle en termes d'éthique de travail, d'acharnement et de caractère.
Guy, il faut juste que je t'arrête parce que les gens de la télé vont nous quitter, mais on poursuit sur le web jusqu'à 13h. Donc, venez nous retrouver sur le web. On salue la mère à Martin, ma mère, la mère à Guy. Toutes les mamans et bon week-end. Venez nous rejoindre sur le web. Alors voilà, c'est les salutations d'usage. Oui, bien oui, d'habitude, c'est toi tout le temps, mais là, il nous restait 10 secondes, donc je voulais être sûr de ne pas l'oublier. OK, autre question, rapide comme ça, sur Facebook. Ouais, vas-y, Guy.
Ce que je veux dire, c'est que faut calculer la part de ces gars-là en termes de contagion. Puis la vérité, c'est que seulement les gens à l'intérieur de l'équipe qui peuvent savoir comment importants ils sont ces gars-là. Comme Nate Thompson.
C'est vrai. Et
quand on écoutait les joueurs parler de Nate Thompson, on comprenait. Ah, OK, je comprends. C'est la même affaire avec Corey Perry. T'sais, on commençait l'année, oh, il est fini, il est ça. Pourquoi? Parce que nos attentes, si on regardait ce qu'il avait déjà fait en termes d'offensive avant, à la place de regarder ce qu'il était capable de faire encore, et à la place de calculer tout son apport en termes d'intangibles. C'est la même chose avec Evans et avec Lekkonen. C'est ces gars-là, quand tu les as plus après, là, tu brailles ta mère. Pourquoi? Parce que tu voudrais que ton gars de talent, qui est plus périmètre, fasse la même affaire. Il le fera pas. C'est pas lui. Fait que donc, là, tu fais quoi là, pour réveiller ton club? Tu fais quoi pour mettre des gars de travail? Tu fais quoi pour mettre des gars d'acharnement? Tes opus sont partis. Et c'est pour ça que des équipes comme Tampa sont allées chercher des Coleman puis des... monsieur puis de l'autre là, qui est rendu à New York. Martin, l'encyclopédie, vas-y.
Barkley, Gaudreau.
Ben oui, puis des gars comme Gould, puis ces gars-là. Si là, la ligne à Gould n'était pas là l'année passée, là, puis l'année d'avant... Le Lightning ne gagne pas de Coupe Stanley. Ben voyons donc, ils ont Kucherov avant toutes les autres. Ben oui, mais si t'as pas ces gars-là, quand tu joues mal, tu continues de jouer mal. Quand tu joues soft, tu continues de jouer soft. Quand l'adversaire est capable de te contrer défensivement, ben t'es mort. C'est ces gars-là qui finissent par traverser le mur défensif de l'adversaire. Regarde la série, Lekkonen, il a été excellent. Excellent. Il nous a même donné un but en supplémentaire, si je ne me trompe pas, pour gagner un match contre qui? Toronto?
Oui, oui, exact, t'as raison. Ouais, contre Toronto.
Guy, que si c'était Toronto qui marquait, bien c'est fini.
Autre question, William Michaud, parce que le temps file. William Michaud te demande, Guy, penses-tu que le Canadien devrait garder Cole Caulfield chez le Rocket tout au long de la saison afin qu'il se développe adéquatement?
Moi, je suis un partisan de est-ce que l'individu est prêt? Puis c'est du cas par cas. Alors, donner un exemple. Mais à un moment donné, quand j'ai eu un jeune, il m'a dit « Ah, il joue pas, il aime pas les jeunes. » C'est pas ça du tout. Garde, je vais donner un exemple. J'ai eu Sean Couturier, moi, il avait 15 ans jusqu'à Noël dans le junior majeur. Je sais pas si les gens réalisent que quelqu'un de 15 ans dans le junior majeur, là, c'est plus que difficile de performer dans cette situation-là. Bien, Sean Couturier, je le faisais jouer contre les meilleurs joueurs adverses toute l'année. Il avait 15 ans. Alors, j'ai Vachon, qui était, mettons, dans la Drummondville, qui avait juste 17 ans, je l'ai mis capitaine. Alors, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité puis de capacité. Alors, exact. Où est-ce que ces individus-là sont rendus? J'ai eu dans la Ligue nationale des joueurs que j'ai... Ben, un gars comme Tyrell, un gars comme Hall, un gars comme Thompson, leur nom était à la Ligue américaine, n'était même pas sur notre tableau pour la Ligue nationale. Mais j'ai vu le camp d'entraînement, même Tyrell qui était recrue, non, ces trois-là méritent de rester à cause de leur éthique de travail. Puis là, je me suis aperçu qu'ils étaient excellents défensivement. Ils ont joué toute l'année contre la première ligne jusqu'au septième match de finale de conférence. Alors, c'est une question où sont les individus, dans quelles circonstances. Alors, Caulfield, peut-être c'est juste bon trois semaines, un mois, deux mois, mais peut-être que c'est bon deux ans. Et c'est là qu'il ne faut pas se limiter et il ne faut pas avoir peur de faire la bonne chose pour le petit gars et pour l'organisation. C'est l'année passée, tu le sais, Martin en a parlé plein de fois, j'ai fermé ma gueule parce que tout le monde est parti en peur avec Caulfield alors que moi je disais, ça va lui nuire. Pourquoi? Ben parce que je l'ai vu tellement de fois, j'ai vu ça là, à profusion. Parce que l'individu arrive, joue sur l'adrénaline, donc joue bien au-dessus de ses moyens, d'où ce qui est rendu, mais il est tellement sur l'adrénaline qu'il va passer à travers. En plus, qu'il était bien entouré, donc il n'y avait pas la pression d'être bon dans toutes les phases de jeu. En plus, qu'on ne mettait pas les meilleurs joueurs adverses contre lui, puis ainsi de suite, ça lui a donné une chance. Mais maintenant que là, wow, là, tu es supposé performer sur une base régulière de nationale, avec la pression de le faire, moins bien entouré, ah, attends une minute, là, c'est pas la même paire de manches. Puis la Ligue nationale, il faut que tu le fasses tous les soirs. C'est ça la lourdeur, la difficulté de la Ligue nationale. Pas un soir, pas un but, non. Il faut que tu sois capable de jouer dans deux sens de la patinoire. Il faut que tu aies une limite. Ouais, mais c'est un joueur offensif, il a scoré des buts, je m'excuse. Il n'y a plus aucun joueur national qui est là juste pour scorer des buts. C'est passé. Si tu scores un but à tous les deux matchs, tu es un gars de 40 buts. Ça veut dire que tu fais quoi le match que tu n'as pas scoré? Puis tu fais quoi les 59 autres minutes du match que tu ne scores pas? Faut que tu sois capable de jouer, là. Faut que tu sois capable de jouer dans toutes les phases de jeu jusqu'à un niveau adéquat pour pas que tu fasses mal à ton équipe. Alors, que ce soit Caulfield ou que ce soit un autre jeune, le critère est toujours le même. Est-ce que tu es prêt? Parce que si on te donne une opportunité et tu n'es pas prêt, ben, tu ne peux pas avoir de succès. Fait que ce que je dis toujours, ton succès va venir quand...
Tu pourrais jouer toute l'année à Laval, puis ça ne serait pas grave.
Ben, ça ne serait pas grave.
Ouais, exact.
Si avant ça, il mérite de monter de calibre, ben, tu l'essayes. Puis après ça, tu regardes de quoi ça a l'air à la Ligue nationale. Puis s'il mérite de rester, comme Evans en ce moment, il se mérite d'avoir plus de temps de glace, il se mérite d'avoir un meilleur rôle. Puis l'inverse est aussi vrai. Alors, c'est une question de mérite. C'est pour ça, pourquoi qu'on ne le met pas là? Pourquoi qu'on ne lui donne pas la chance? Ouais, mais on lui a donné la chance, là. Puis ça l'a détruit. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Faut que tu donnes la chance à quelqu'un qui est prêt. Quand tu vois qu'il n'est pas prêt, faut pas que tu hésites à faire la bonne chose pour le jeune et la bonne chose pour l'organisation. Peu importe qu'est-ce qu'on dit des médias, puis peu importe ce qu'on dit chez les fans. Parce que l'information... Oui. C'est comme un parent. Faut que tu le fasses pour les bonnes raisons parce que tu l'aimes, ton jeune. Faut pas parce que tu veux l'étaler sur la place publique.
Guy, pour bien terminer l'émission, le dernier point ne sera pas une question, mais un commentaire que je viens de lire sur le rds.ca. Je pense que ça va bien terminer avec ce que tu parlais et tu parlais des attentes un peu plus tôt également. Il y a Marc Hayes sur rds.ca qui écrit « Maudit que j'aime cette réponse-là. Depuis que j'ai baissé mes attentes avec ma fille, ma relation est beaucoup plus saine. Merci à Guy Boucher de m'avoir fait comprendre ça dans le passé par cette réponse. » Donc, je trouvais ça le fun de lire ce message-là parce que, oui, on parle de hockey, Guy, mais souvent, tu passes des commentaires et tu dis des choses qui aident les gens directement. Donc, je voulais souligner ce message-là de Marc Hayes sur rds.ca.
Bien, merci. Pour être franc, Yannick, là, ça vraiment, ça me... Ben, regarde, c'est mon vrai salaire, ça. Je vais être franc, là. Le hockey, pour moi, c'est un véhicule. Mais ça, entendre ça, regarde, ça me fait chaud au cœur, puis j'apprécie énormément, bien au-delà de tout ce qui a rapport au hockey. Merci énormément.
Coach, on te remercie, c'était bien le fun, les gens apprécient énormément de commentaires, là. Il y en a plein tantôt, si tu as un peu de temps, là, va te plugger sur la page Facebook, va lire les commentaires des gens, il y en a des milliers, et les gens ont adoré ce que tu as fait encore avec eux aujourd'hui, puis on va refaire ça, c'est certain. On te souhaite un bon week-end, Guy.
Merci à tout le monde, très apprécié.
Salut coach. On va enchaîner avec les trois étoiles. Je pense qu'on a perdu la connexion avec Martin. Oui, c'est ça. On a perdu la connexion avec Martin. Donc on va enchaîner avec les trois étoiles du jour. Puis je vais vous nommer ça. Je vais vous nommer ça. C'est parti avec la troisième étoile, the third star du RDS.ca, Martin Lajoie. La deuxième étoile de Second Star du Facebook On Jase, Kevin Simard. Et la première étoile de First Star du Facebook RDS, Jonathan Drapeau. Alors voilà pour les trois étoiles du jour et malheureusement on me dit que la connexion avec Martin est terminée, donc il va être fâché, mais je vais me faire le porte-parole de nous deux, de notre duo, pour remercier nos collaborateurs aujourd'hui. Ben merci beaucoup à Guy Boucher d'avoir passé l'heure avec nous et d'accepter de se prêter au jeu là, des questions-réponses du public. C'était bien le fun. Alexandre Côté à la réalisation mise en onde aujourd'hui. Un gros merci Alex. Merci également à Tim aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Tout un travail encore une fois aujourd'hui. Et surtout à vous tous, que vous soyez à la maison, au travail, au bureau, peu importe, vous prenez le temps de nous regarder, de nous écouter. Et je sais que vous êtes très nombreux, les codes d'écoute, on a des rapports et c'est très, très intéressant. Et surtout, vous prenez le temps de nous écrire. Sachez qu'on vous lit, on aurait aimé lire le plus de questions possible, mais évidemment, le temps vient nous presser un peu, mais on lit vos commentaires. Et c'est très, très apprécié. Merci beaucoup de prendre le temps de nous écrire. Ben, grosse fin de semaine de sport. Il y a plein d'activités. On va suivre le Canadien à deux matchs en fin de semaine contre les Red Wings samedi soir et
dimanche soir contre les Bruins à Boston. Dimanche, c'est présenté sur les ondes de RDS. Il y a du football, il y a les Alouettes également demain après-midi. Bref, il y a énormément d'activités à surveiller cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end de sport. Prenez du temps pour vous, prenez du temps avec votre famille, vos enfants. Dites-leur que vous les aimez et surtout, soyez avec nous dès lundi. Moi, je quitte pour deux émissions. Je m'en vais en tournage pour Hors-jeu 2.0 lundi et mardi. C'est Stéphane Leroux qui va me remplacer à l'animation avec Martin. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain. À vous tous, je vous dis un gros merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye.